Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 9 octobre 2010. Nos programmes pour cet après-midi. À 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Zarma Farai. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le débat philosophique que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end...
Il n'y avait pas des professeurs saillants pour guérir les maux des footballeurs et les remettre sur pied en l'espace de 3 à 4 mois. Ça n'existait pas, donc jambes cassées, carrière brisée. Facile. Et donc, il se reconvertit.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks avec du sport, Ultimatum, Das Creek et la participation exceptionnelle de JB.
Attends, t'as même pas encore lu ma chronique sur ce manga. Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas cassé une jambe sur le championnat anglais pendant les années 70 et tout le reste. Et j'espère que vous profitez de ce superbe vent.
Donc Xavier, on a dit qu'on ne pétait pas au micro.
Non, je parlais du vent d'OTAN.
Ah, le vent d'OTAN, pardon, autant pour moi. Ah, le vent d'OTAN. Là, ça commence bien.
Oui,
bonjour amis auditeurs.
Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui au programme, nous aurons de la Nikita japonaise, Butler, un majordome de combat. Nous aurons du miracle, nous aurons quelque chose qui casse mal, nous aurons de la cible humaine. Oui, forcément avec Tista après. Nous aurons une bio qui a été complètement oubliée. Je ne sais pas pourquoi. Je dirais un petit peu que ça a été encombré par l'actualité.
Surchargé par les morts.
Et tout le reste. Mais on a surtout... On a le nouveau psychopathe qui est arrivé. C'est le numéro 224 de ce mensuel. Prix 4,90€ en kiosque. Et la une... Donne le ton, c'est sur les nouveaux philosophes et on voit un BHL là, en train de penser sur le trou noir et de peindre avec sa déjection ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as. Et tout le reste est sur les nouveaux philosophes. Je vous laisse deviner quand même que les dernières frasques de BHL et notamment son superbe plantage sur le botulisme y ont beaucoup...
Sur le ?
Le botulisme.
C'est quoi ?
C'est une blague d'un cercle de philosophie expérimentale et complètement crétin qui avait créé un faux philosophe allemand qui s'appelait Georges Botul et qui pondait des théories complètement abscondes. Et BHL a été suffisamment con pour ne pas vérifier ses sources et il a cité texto les articles en disant, comme le disait le célèbre philosophe Botul, etc., pour le ressortir dans tous les plateaux télé. Ce qui fait qu'après, quand il est arrivé sur les plateaux télé où la supercherie a été éventée, il s'est pris un vent.
Est-ce qu'il parle aussi dans l'article de sa confusion avec...
Il n'y a pas que ça. Hein,
est-ce qu'il parle aussi de la confusion avec Tadei ? T'étais au courant de ce qu'il a dit sur Tadei ? En fait, il a vu dans son Twitter que Tadei avait été reconduit pour 4 ans. Pour 4 ans, il a dit c'est n'importe quoi qu'on reconduise un animateur de France Télévisions comme ça pour 4 ans. Sauf que, en fait, il s'est planté parce que Tadei, c'était un joueur de l'AS Roma.
Oh putain. Oh oui, je l'avais oublié celle-là. Elle est bien bonne. D'où ce super dessin de Jean-Luc Coudray. Les nouveaux philosophes sont-ils universels ? Oui, ils sont séducteurs, creux, rapaces, vantards et médiocres. Et il y a plein d'autres bons mots dessus. Il y a notamment une allusion au sophisme. Donc je rappelle que le sophisme, c'est une école de pensée à laquelle d'ailleurs l'université de Paris au XVe siècle s'était rattachée. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont des beaux parleurs, en fait, plus ou moins. C'est-à-dire que on peut faire de l'argument comme on veut et on peut le ressortir à tous les sens. Je fais de la vulgarisation, si vous préférez.
La vulgarisation philosophique.
Voilà. Donc, par exemple, pour parvenir à ses fins, le sophiste utilise des figures logiques connues. Ainsi, le syllogisme d'Aristote. A plus B égale C. Par exemple, A. L'abolition des privilèges doit être poursuivie. B. Les fonctionnaires sont les privilégiés. C. Il faut donc démanteler le secteur public. Bon, c'est un raisonnement qui est une grosse connerie, tout le monde sait que c'est pas pour cette raison. C'est Jacques Rénal qui raconte ça dans Le bal des sophismes, qui reprend par exemple une phrase du secrétaire d'État américain armé pendant la période Bush. Êtes-vous avec nous ou avec les terroristes? Encore une grosse connerie, on peut très bien être un terroriste modéré. Et tout le reste est là-dessus, il y a des trucs qui sont absolument énormes. On découvre que l'on peut, que la pierre philosophale peut aussi se jeter sur la gueule à Finkielkraut. Ou encore que la vie sexuelle de Kant était beaucoup plus palpitante que la vie sexuelle de BHL.
Ah mais Kant il sortait pas avec
Dombal. Il sortait avec son petit copain, tout le reste. C'est dans les Nouveaux Philosophes, c'est le dossier spécial du psychopathe, 4,90€ en kiosque, c'est arrivé cette semaine. Et je vous le recommande fortement parce que c'est à se pisser dessus de rire. Bien évidemment, il y a les dessins de Carali, il y a les dessins de Schwartz, de Goubel, Ratika et plein d'autres. C'est absolument génial. C'est à pleurer de rire. Moi, je trouve que franchement, c'est très très bon. Là, ils ont fait très fort dans le Psychopathe illustré. Je me suis tordu de rire. J'ai pas tout lu, évidemment, j'ai pas eu le temps, mais en tout cas, c'est vraiment très bon. Qui en veut ? Allez, du sport, va faire caca comme BHL en lecture. C'est quand même pas mal. J'ai coupé un peu sec, excusez-moi. Oh, excellent. On va commencer les chroniques manga avec Tatsuya Endo, Tista, les tomes 1 et 2. Excuse-moi, Thomas.
Oui, je t'attendais que tu te plantes parce que avant de parler de psychopathe, t'avais une ligne dans ton conducteur, normalement.
Oh merde. Exact.
La pub.
Ah oui, mais je t'ai pas senti embrayer, donc je me suis fait avoir, voilà.
Ouais.
Vas-y,
non, mais vas-y, continue ta chronique.
Non, mais vas-y, il faut en parler.
D'accord.
Il faut en parler puisque c'est cet après-midi et je t'ai demandé en plus justement d'en parler.
Non, mais après, on en parle après la bande dessinée si tu veux.
Non, vas-y.
Bon, d'accord, allez. C'est cet après-midi, donc c'est l'inauguration du TGS Store. Donc ce n'est pas un magasin qui sort de terre comme ça en faisant plof. Avant, c'était... il faut savoir que ce sont les vendeurs du magasin de jeux vidéo Player & Game à Toulouse, donc il est situé rue de l'URSS vers Saint-Michel, qui ont cofondé donc, le festival Toulouse Game Show. Et donc ce magasin qui s'appelait Player & Game change de nom aujourd'hui et donc devient le TGS Store. Et cet après-midi a lieu l'inauguration de ce magasin nouvellement intitulé.
Repin.
Et oui, voilà, repeint. Et donc, il y aura des bornes d'arcade en free play, des jeux en libre accès, des jeux musicaux, une exposition Star Trek, un arrivage de goodies, des jeux et consoles next-gen, des imports et rétro, les tout derniers Pix & Love, la billetterie TGS, un t-shirt Unfair Design Marcus, et ainsi que quelques animes. Donc, si vous aimez les ambiances du TGS avec d'autres gamers pour vous égoïser sur Street Fighter 4 ou sur des bornes d'arcade rétro, eh ben, je pense que ça peut valoir le coup. Il y a aussi des promos sur les jeux avec des offres exceptionnelles aujourd'hui.
Ouais, ça c'est commercial, on n'a pas en parlé.
Ah bon, bah tant pis. Non, mais c'est juste pour profiter de l'occasion qu'il y avait des offres commerciales aussi cet après-midi. Donc il y aura des trucs à gagner, des t-shirts, des goodies, des bons d'achat, des entrées au TGS. Voilà, donc si vous aimez bien ce type d'ambiance, donc c'est le TGS Store qui ouvre cet après-midi, donc qui est situé 11 avenue de l'URSS, à côté du métro Saint-Michel.
Pile sur la fin de la musique, magnifique. Et maintenant, on enchaîne enfin avec les chroniques BD. Je vais commencer par Tista, dont les deux tomes sont sortis dans la collection Shonen Ump chez Kaze. C'est scénarisé et dessiné par Tatsuya Endo. Du moins, on sait que bon, il a un petit studio derrière lui, il le présente à la fin. Comment dire, doit avoir quelque chose de magique entre New York, sa police et la religion, ou du moins en bande dessinée. C'est la plus grande ville juive du monde, mais la mégapole est aussi connue pour ses églises catholiques. Soda, par exemple, où pour ne pas éveiller les soupçons de sa mère, et donc d'une éventuelle crise cardiaque, un inspecteur de police lui fait croire qu'il est pasteur. Tristalone est une jeune fille qui est entrée à l'université pour étudier l'art. Myope au possible très effacée, l'orpheline est entrée à l'université après avoir été élevée dans un couvent. Pendant ce temps-là, les services de police et le FBI sont sur le dent pour tenter de débusquer l'un des plus grands tueurs en série de l'histoire américaine. Une cinquantaine de meurtres, des personnes en général peu recommandables liées au crime organisé ou bien des assassins, des chefs de gang, bref, des âmes noires qui seraient bien difficiles de recommander à Dieu. C'est la légende de Sœur Milicia qui fait trembler tous les malfrats. Elle est capable de tirer à une distance de plus de 500 mètres, ce qui en fait déjà un sniper exceptionnel, mais surtout d'atteindre sa cible même dans une voiture en mouvement, en trajectoire parabolique entre deux immeubles, ce qui est carrément impensable. L'explication à ce miracle ? Eh ben en fait, Tista a été prise en main par l'église qui a fait d'elle le bras vengeur de Dieu. Tista a hérité d'une vue extraordinaire qui lui permet de voir des détails à une distance très lointaine. Mais ce don a une malédiction, c'est celui de la vengeance. Et si jamais elle s'en écarte, sa vue normale deviendra de plus en plus basse, elle pourrait même devenir aveugle. Oui, mais voilà, en sortant du couvent, Tistalone commence à avoir des sentiments pour un jeune homme, Artie, ce qui est à la fois un risque pour sa mission, pour sa couverture et sa propre vue. Elle a donc dû disparaître, mais elle va intervenir dans le destin d'Artie, car sa galerie d'art où il travaille à mi-temps, le jeune homme n'est rien d'autre qu'une couverture pour les trafiquants de drogue. Encore une mission pour Sœur Militia, mais celle-ci aura des conséquences, mettant en péril sa propre destinée. Car quand on accepte ce genre de mission, sa ligne de visée, c'est sa ligne de vie. Or, Sœur Milicia avait l'avantage de la distance, et elle se rapproche dangereusement de ses cibles. L'histoire cherche une originalité, use des poncifs, quitte à faire le grand écart entre église et tueur à gages, mais au final, on joue le jeu. Il y a bien sûr d'autres grandes incohérences, mais une fois que l'histoire démarre, on y fait moins attention. Par contre, on sent nettement un changement radical sur le script en plein milieu et que l'histoire aurait pu devenir une série sur une plus grande durée. Néanmoins, la fin ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe, mais clôt l'histoire d'une manière logique, attendue et même annoncée. Ça manque peut-être de phrases latines ou de citations de la Bible, mais bon, ite mista est, hein, la messe est dite. Cela en fait un bon petit polar, une histoire complète, pas très chère.
Attention, les 10 prochaines minutes de cette émission comportent un rejet total par la gauchosphère des années fric soutenues par le programme de l'actuel président de la République en exercice, qui pourrait choquer les jeunes de l'âge de Benjamin Lancard et moins.
Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais la semaine dernière, il y avait un lot de 100 millions d'euros à gagner à la loterie. Bon, c'est une somme absolument indécente. Je trouve que tel montant, ça dévalorise complètement la valeur de l'argent, au point que cela en devient complètement abstrait. On nous fait rêver qu'on peut spontanément devenir des super riches, avec notre ronde serviette au Phuket, sa place réservée pour son hors-bord sur le quai de Bercy, devant le ministère de l'économie et des finances, une niche fiscale à son nom et la retraite immédiate à taux fixe. Si c'est pas pour justifier les années bling-bling, ça. En plus, la loterie, c'est vraiment un impôt sur les pauvres. On leur fait miroiter une somme indécente, et les gens qui y jouent perdent leur dernier denier sur des espoirs improbables. Ayaté, par exemple. Ayaté, c'est The Combat Butler, c'est donc le nom du héros et le titre de la série scénarisée et dessinée par Kenshiro Hata, et c'est sorti chez Kana. Ayaté, donc, il a demandé un jour au Père Noël pourquoi il ne lui apporte jamais de cadeaux. Celui-ci aura la décence au moins d'être franc.
« Ouh, parce que ta famille est pauvre.
Oh, oh, oh. »
Et depuis, le jeune garçon travaillera tout le temps pour mettre quelques sous de côté. Il vient de se faire virer de son emploi de coursier. Pas parce qu'il est mauvais, oh non, au contraire, mais parce que ses parents l'ont dénoncé à son employeur comme quoi il est mineur. Et ses mêmes parents ont encaissé son salaire par le même coup, car les parents d'Ayaté ont le démon du jeu. À ce stade, on peut peut-être comparer à du Victor Hugo. Bref, Ayaté n'a pas un sou devant lui et vient de découvrir le joli cadeau de Noël de ses parents. Oui, ils ont contracté une dette de 158 millions de yens, soit un peu plus d'1,17 million d'euros, chez un Yamakin, un usurier mafieux. Si vous vous souvenez de Ujushima, vous en souviendrez peut-être. Et donc, ils ont mis leur propre fils en gage. Ah, bien évidemment, les Yakuza rappliquent, car ils ont déjà vendu Ayaté en pièces détachées, organe par organe, sur eBay. Enfoncez Victor Hugo. Et qu'est-ce qu'il a à se plaindre, franchement, Jérôme Kerviel, avec ses 3 ans de prison et ses 4,9 milliards d'euros à rembourser? La Société Générale n'a pas encore vendu son corps à un quelconque labo pour le rembourser, hein? Et il lui reste bien 1 euro ou 2 pour jouer à la loterie pour... ouais, il faudrait qu'il gagne au moins 50 fois la super loterie de 100 millions d'euros pour ce... Bon, revenons donc à Ayaté en ce sinistre soir de Noël. Il a décidé de devenir adulte et de passer à une méthode désespérée pour se faire de l'argent. Il va kidnapper une fille dans un parc. La petite, charmante et totalement innocente jeune fille qui va tenter de kidnapper est la belle Yanagi, très riche héritière d'une dynastie tellement riche et respectable que même Liliane Bettencourt a oublié d'où vient leur fortune. C'est vous dire combien c'est indécent. Alors je tiens à faire une précision, j'ai dit Nagi, mais c'est une fille, rien à voir avec l'animateur qui s'est plaint en direct sur Europe 1 que ses distributeurs bancaires c'est nul, on peut pas retirer plus de 10 000 euros d'un coup. Bon, seulement si Ayaté se retient finalement d'enlever une aussi jeune fille et jolie par un regret, Nagi, elle se fait effectivement enlever par des loubards sous ses yeux. N'écoutant que son courage et son grand cœur de héros d'un faux shoujo manga, Ayaté se lance à la poursuite de la voiture, se fait renverser et fait fuir les loubards. Nagi, elle est totalement sous le charme de ce fantastique jeune homme capable de taire de choses et la ramène chez elle. Elle a décidé de faire d'Ayaté son prochain majordome. Alors, une petite fille très riche, dans un immense château pour elle toute seule, avec autant de pièces que de Rolex en or, inutile de dire qu'Ayaté va être un peu prisonnier de cette histoire, car dès qu'il mettra le pied dehors, dès qu'il quittera la propriété, les Yakuza mettront le grappin sur lui pour le dépecer et le vendre par pièces détachées comme n'importe quel BMW garé en dehors de la rue Croix-Baragnon. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Alors Jérôme Kerviel et ses 3 ans de prison ferme, hein, il va pas la ramener. Bon, la chronique n'était que sujet à rigolade. Après c'est du archi classique, ça casse pas des briques, ok c'est distrayant pour les collégiens mais on n'ira pas forcément au-delà. ou alors j'ai la critique rancunière envers les super riches. Ayate, The Combat Butler, le tome 1 donc du manga de Kenjiro Hata, vient de sortir en traduction française chez Kana. Alistair, fille à problème. Vous êtes sur FMR, c'est le supplément week-end.
Encore une fille à problème. Encore une fille sans lendemain. Encore une fille que j'aime, allongée dans ma salle de bain. Encore une fille à problème, qui me demande sans les mains. Encore une fille que j'aime, qui se demande chaque matin.
On présente la chronique
DVD et animation aujourd'hui avec un film de Sunao.
Attends, oui, excuse-moi, je l'ai balancé trop tôt, tu m'as dit en intro.
Non, c'est toi, c'est moi qui me suis embrouillé les pinceaux, vas-y.
Ah bah, chacun son tour, voilà. Donc on y va, attention.
Shinko, doko itta no? Higurashi suzume ni uminae shi usui ro hanayami umi no aka sugoroku kasaburi. Kite kite, hayo hayo.
Koko ni wa sennen no himitsu ga aru yo. Kono maemae ga ne, tokidoki kou zawa 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 tte naru toki ga aru yo.
Asobou yo.
Bon, on précise, hein, c'est parce que c'est la bande-annonce officielle et on l'a trouvé qu'en japonais. On est désolé.
Oh, si, je trouve en français, mais je trouve que ça passait mieux en japonais. Voilà, donc c'est le film d'animation de Sunao Katabuchi qui est produit par le studio Madhouse et qui a été réalisé en 2009 et sorti et présenté au Festival d'Annecy en 2010 et qui est disponible actuellement en DVD chez Kazé. J'en parle car il y a un mois, il a été diffusé à la Cinémathèque de Toulouse un dimanche après-midi et c'était une diffusion
projection
unique.
Projection one-shot, ouais.
Voilà, donc j'ai pas pu dire allez-y puisque c'était en one-shot. Alors, ça raconte l'histoire de... Donc, ça, l'action se passe dans le Japon des années 50, dans la région rurale de Ofu. La petite Shinko Aoki laisse son imagination la transporter 1000 ans en arrière dans la peau d'une jeune fille de son âge. Alors, elle se base pour imaginer ça sur des récits de son grand-père parce qu'il a récupéré des documents de cette époque. Alors, elle adore ainsi se balader seule dans la nature, dans son petit monde, dans les champs de blé. Mais lorsque la citadine Kiiko Shimazu débarque dans sa classe, la très citadine et tokyoïte Kiiko Shimazu, Shinko s'en fait très vite une amie et les deux fillettes se mêlent à d'autres camarades pour jouer dans les champs, construire un barrage, adopter un poisson, explorer une grotte. Voilà, donc vous avez vu, c'est assez bucolique, c'est assez...
Ils n'ont pas eu la couleur, mais effectivement, c'est très bucolique, ça fait beaucoup penser à Miyazaki.
Ah, voilà. Donc ça,
mais
c'est...
je te casse ta chronique.
Non, pas du tout. En fait, c'est... disons que quand on se focalise sur le visuel et sur les premières apparences, c'est vrai que ça pourrait faire penser à Miyazaki, surtout la veine Totoro. Sauf que quand tu grattes un peu, c'est un film qui ne joue absolument pas sur la veine grandes envolées épiques de Miyazaki, mais plutôt sur un très très fort ancrage dans le réalisme propre à Isao Takahata plutôt. Donc c'est inspiré d'un roman autobiographique de l'écrivaine Nobuko Takagi. Donc c'est le patron du studio Madhouse justement qui est tombé sur ce roman autobiographique, il a acheté les droits et puis c'est lui qui l'a proposé au réalisateur Katabuchi pour qu'il en fasse le film. Katabuchi, c'était pas son premier coup d'essai car il avait fait l'adaptation de Black Lagoon, c'était un truc un peu plus commercial en OAV pour Madhouse et justement ça lui permet de faire un film un peu plus personnel. On a parlé de Miyazaki et Takahata du studio Ghibli tout à l'heure, donc ce n'est pas anodin non plus, car Katabuchi a fait ses premières classes dans le studio Ghibli, justement. Il a collaboré à la série Sherlock Holmes et a collaboré également avec Miyazaki sur Kiki la petite sorcière. Il s'est toujours réclamé plus de Takahata que de Miyazaki, d'ailleurs, comme je vous le disais, mais on va le voir tout à l'heure. L'un des attraits de ce film, c'est que le casting de voix est assez bien fichu, car il a été réalisé dans la vraie région de Ofu, ce qui fait que ça permet d'avoir des personnages qui ont le vrai accent de cette région. Donc ça, à cette époque-là, dans les années 50, c'est très rural. Il y a aussi un quartier qui est très... avec une implantation d'usine assez forte, donc c'est justement le quartier qu'habite la nouvelle camarade de classe de Shinko. Donc elle est plutôt meublée à l'occidental, avec un frigo au gaz. C'est beaucoup plus, on va dire, bourgeois, quartier un peu résidentiel, alors que Shinko vit traditionnellement avec sa famille, avec sa petite sœur, avec son grand-père, avec sa mère. Son père est absent parce qu'il travaille ailleurs, mais elle vit vraiment dans la campagne. Elle laisse son imagination déborder à chaque fois qu'elle longe le fleuve. Voilà. C'est vrai que l'un des fils rouges de ce film, c'est la résonance entre ce que vit la fille il y a 1000 ans, c'est-à-dire qu'il y a un rapprochement entre ce que vit une jeune fille, c'est une jeune fille qui s'ennuie en fait il y a 1000 ans, et ce que vivent les deux jeunes filles d'aujourd'hui. Les flashbacks, les retours en arrière pomment un petit peu le spectateur au départ, mais après on s'y fait assez rapidement. On se dit mais pourquoi il y a tous ces flashbacks? Alors il y a des fendus à un moment donné où Shinko est en train de s'imaginer comment c'était à l'époque. Donc tu vois la route aujourd'hui, il y a en fendu, tu vois les bœufs qui tiraient les carrioles à l'époque. Donc ah oui, tu vois, tu as à cette époque-là pour voyager, on était comme ça et tout. Elle est passionnée par cette époque-là parce que les écrits qu'a récupéré son grand-père lui permettent de vaguer un peu à son imaginaire et puis de s'échapper un petit peu, d'être dans son petit monde. Les thèmes centraux, donc je disais, c'est l'imaginaire et surtout, alors c'est ça, avant d'aborder ça, je vais un peu donner mon ressenti, c'est que tu vois le film, tu te dis, bon, allez, c'est à la Miyazaki, donc c'est la campagne, c'est génial, la ville, c'est caca, c'est pas bien, le Japon devient de plus en plus urbanisé. C'était mieux avant. Alors, c'est marrant parce que ça se déroule dans les années 50 et il n'est absolument pas fait mention, enfin, à mon souvenir, pas du tout, de l'après-guerre, en fait. C'est, on voit pas qu'il y a eu, il y a eu les deux bombes avant, c'est juste les années 50, une période d'innocence pour les jeunes filles. Après, comme le film est vu, l'histoire est vue à travers les yeux des deux jeunes filles, c'est peut-être aussi fait exprès. Vous verrez si vous voyez le film que tout est vu à travers l'innocence des jeunes gens. Et le thème central, justement, c'est le rapport à la mort. Parce que, alors, au début, au premier abord, tu dis ouais, voilà, film un peu innocent, c'est rigolo, c'est mignon. Mais il y a un truc qui cloche. Puis tu te dis, mais en fait, c'est pas du tout ça, parce que c'est vachement ancré dans le réel. Et puis tu te dis. Ouais, bon, ils adoptent un poisson, il y a le grand-père qui est malade, bon, d'accord, le grand-père est malade, bon, ça permet de contrebalancer avec du positif à côté. Et puis le positif, tu dis qu'il se cache toujours quelque chose un peu plus dur, ils font l'apprentissage de la vie en même temps. Tu dis, ah ouais, c'est plutôt d'accord. Et à un moment donné, il y a la jeune fille citadine qui arrive, elle est très secrète, elle se dévoile pas, et puis à un moment donné, l'héroïne Shinko amène cette fameuse copine chez elle, et il traîne par terre un sac de bonbons au chocolat, sauf qu'elle se rend compte en les mangeant qu'il y a un goût bizarre, c'est ils sont alcool. Et donc, dans une scène absolument inénarrable, il y a la nouvelle amie de Shinko qui lui raconte que sa mère est morte, qu'elle a perdu sa mère, mais comme elles sont complètement bourrées, en fait, elle raconte ça en éclatant de rire. Et donc, elles sont trois, avec les deux gamines, plus la petite sœur, et puis la petite sœur qui court en rond autour d'elle en disant « Ouais, c'est génial, ta mère est morte !» Et elles sont en train d'éclater de rire. Alors, c'est vrai que c'est ce contraste-là qui illustre parfaitement le film. C'est que le film est entre deux, où tu vois l'innocence, mais en même temps, tu vois que ces personnages-là, ils ont quand même fait déjà l'apprentissage de la vie. Et le film Vogue, c'est plutôt une initiation, mais vraiment très, 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 très loin de l'imaginaire miyazakien avec les dragons, les nounours qui se cachent dans les creux des arbres. Là, vraiment, c'est vraiment très ancré dans le réel. Le film est super émouvant parce que t'as pas l'impression, enfin c'est entre la comédie et les émotions, mais à part cette scène là où tu ris aux éclats, après c'était plus touché en fait qu'autre chose par les aventures de ces jeunes gens, parce qu'il y a pas que ces jeunes filles, il y a aussi leurs camarades de classe, il y en a un qui est plus âgé, il est un peu secret, tu penses au départ que c'est un peu un bourrin, mais en fait tu te rends compte que son père est jamais là, que son père a... En même temps, dans le film, plus tard, tu apprends que c'est un flic. Ensuite, tu vois que la ville, parce qu'il y a une ville dedans aussi, tu vois que le quartier, il est un peu mal famé, et il est aussi question de Yakuza. Dans ce film, tu vois que les Yakuza, c'est pas des gens...
Enfin, déjà, quand tu parles de flics, il y a une particularité au Japon, c'est qu'ils sont pas armés. Donc ça contrebalance un peu. Hein.
Et voilà, et puis au fur et à mesure que je vous parle du film, vous devinez un peu que s'il y a des Yakuza dedans, ça va pas être des Yakuza au grand cœur, ça va être... voilà, il y a des côtés un peu sombres dans le film aussi, et quand ça arrive, tu te prends un coup derrière la tête, tu dis « Ah ouais, quand même !» Et c'est vraiment l'apprentissage de... Bah, c'est la mort vue par les jeunes gens, donc ils vont faire l'apprentissage, ils vont devoir... ils vont à un moment donné adopter un animal, mais ils se rendent compte qu'aussi c'est pas si facile que ça, parce que l'animal, bah, il a des besoins, il faut s'en occuper, etc. Il y a aussi tout un sentiment de culpabilité par rapport aux responsabilités, par rapport à la nature. Donc c'est pas vraiment une comédie, c'est une chronique douce amère de la jeunesse dans la ruralité des années 50. Moi, pour rien vous cacher, le film, je l'ai vu il y a un mois. Entre-temps, le souvenir a été super fugace au bout de 10 jours, parce que je l'avais quasiment oublié. Et quand j'ai revu la bande-annonce ce matin pour préparer la chronique, il y a tout qui est revenu. Et je me dis que il fait pas partie de ces grands films où tu te dis « Oh putain, c'est trop beau, c'est génial, t'as les envolées épiques, tu dis « Ouais, vas-y, chevauche ton âne, ton cheval » ou un truc comme ça. C'est vraiment très ancré dans le réel et ça fait partie de ces petits films. Si vous êtes friand de ce genre de petites productions comme Piano Forest, qui était un excellent film dont je vous avais parlé, que j'avais vu à Annecy il y a 2 ans, c'était une chronique aussi entre deux jeunes gens qui apprenaient le piano. Et voilà, c'est le cinéma d'animation japonais est aussi capable de nous livrer ce genre de trucs, des petites productions, voilà, qui paient pas de mine, qui sont bourrées et pas bourrées de bons sentiments. C'est vraiment une morale, mais pas blanc et noir non plus. Voilà, c'est les films entre deux. Alors normalement c'est censé être vu par des gamins de D6 ans, mais
ouais, toi tu hésites, hein.
Ben je sais pas, déjà le film, il faut le voir en VO, donc à cet âge là il faut attendre un petit peu. Je pense que ça peut plaire peut-être plus aux grands qu'aux petits. Mais non, les petits, faut pas les prendre pour des cons non plus, donc je pense que ça peut quand même leur plaire. C'est un film assez singulier, je vous encourage d'ailleurs à le voir. My My Miracle, voilà, c'est entre mélancolie, émotion, t'as les émotions qui te viennent dans la gorge pendant tout le film. En plus, on va dire que, sans pour autant spoiler, c'est pas vraiment une happy end à 100% non plus. Donc il y a quand même pas mal de moments où tu te dis « Ah ouais, mais ah ouais, c'est osé quand même, c'est... Ah oui, quand même, ouais, d'accord, ils ont bien appris la vie là, les petits jeunes. » Voilà, donc ça remue un petit peu. My My Miracle est un très bon petit film de Sunao Katabuchi, produit par Madhouse et disponible chez Kazé en DVD. Et c'est vraiment bourré de charme, et si vous appréciez ce genre de petite production, voilà, je vous encourage à aller le voir.
Tu m'as demandé de passer un morceau.
Oui. Parce que le morceau qu'on va passer est un morceau des années 70, il me semble, et c'est revisité par des chœurs de petites filles dans le film, et vous reconnaîtrez aisément le morceau en question.
Du sport blind test.
Sing a song. Sing out loud, sing out strong, sing of good things, not bad, sing of happy, not sad.
Petite musique guillerette et tout, c'est les Carpenters, Sing, et donc du sport, tu peux peut-être en dire justement.
Allez,
sur
on va plomber l'ambiance.
Non, pas pour plomber l'ambiance, mais enfin bon, les Carpenters, c'était un groupe vachement connu dans les années 60-70, et dont une des nanas, je me rappelle, c'est une des filles, parce que c'était une famille carrément, il y avait le père, la mère et deux filles, me semble-t-il, ils étaient quatre, et donc la fille qui après a fait une petite carrière solo, une bonne carrière solo, Mary Chapin Carpenter, a toujours eu un problème d'anorexie. et ce qui a plus ou moins indirectement causé sa mort, en fait.
Voilà. Une anecdote par rapport aux Carpenters, c'est que dans le film L'Antre de la Folie, au début, il y a Sam Neill qui est admis dans l'asile de fous, et on lui met la musique pour le détendre, c'est une musique des Carpenters, et donc il dit non, pas les Carpenters, et le film est réalisé par John Carpenter.
aucun lien de parenté.
Mais c'était pour la blague.
Alors, on va attaquer tout d'abord par la deuxième, c'est le deuxième seulement. Ah bah bon, c'est le deuxième festival des littératures policières qui a lieu depuis aujourd'hui, ce matin, jusqu'à demain au Forum de la Renaissance. C'est Allée 500, métro, c'est en Basso-Cambo, donc c'est en bout de ligne. Et c'est l'événement qui est organisé par l'un des grands maîtres français de la littérature policière. Pas un écrivain, mais c'est le type qui est le plus connu au niveau polar, après un certain Duhamel, le créateur de la série noire, qui est mort depuis, quoi. Mais c'est Jacques Mesplède qui a d'ailleurs écrit, je crois, 2 ou 3 encyclopédies du polar. Donc, c'est pas... D'accord, et Claude Mesplède, il est du coin, il est de Toulouse, et donc il a eu cette idée d'organiser ce festival des littératures policières plus tourné sur les romans d'auteurs venus du Sud et en particulier du contour de la Méditerranée. Un petit peu par opposition aux grandes figures du polar tel qu'on le connaît, c'est-à-dire surtout les anglo-saxons, américains en tête, les anglais un petit peu et le polar français bien entendu. Mais il a décidé de faire la part belle dans ces festivals, pas uniquement, dans ce festival de littérature policière, aux écrivains qui sont un petit peu moins connus, qu'ils viennent d'Italie, qu'ils viennent des pays du Maghreb, qu'ils viennent d'un petit peu plus loin, même du Moyen-Orient. Donc c'est plus ou moins centré autour de la Méditerranée, avec cette année un angle un petit peu spécial sur le polar italien. Parce qu'il y aura à 17h30 cet après-midi une conférence histoire du roman policier italien avec des auteurs bien entendu présents, Loriano Machiavelli, Gian Rico, Caro Figlio, voilà. Il y a également un peu plus tôt, à 14h, là, dans un petit peu plus d'une heure, un hommage à Jean Vautrin qui est présent avec Jacques Tardy, bien entendu, et Claude Mesplède, donc ça se passe à 14h. Je le rappelle, c'est au Forum de la Renaissance, Allée 500, métro A, Basso, Cambo. Donc, et demain, ça continue, bien entendu, toute la journée. Et aujourd'hui, dans la dépêche, on a quand même la chance d'avoir une belle illustration de Tardy avec une petite interview de l'homme d'Adèle Blanc-Sec. Mais pas que, parce qu'on sait que Tardy...
Il avait adapté des romans de Didier Deninx.
Voilà, de Deninx, de Vautrin, de Léo Mallet, surtout Nestor Burma. Il a fait une série, de toute façon.
Vrai. Dont il a cédé la main, mais...
Mais
d'ailleurs,
les premiers...
qui se maintient toujours.
Les premiers, de toute façon, les premiers Nestor Burma en BD, les adaptations de Mallet, de toute façon, ça a été Tardy, de toute façon. Mallet, je crois qu'il s'habitait même dans le même quartier à Paris. En plus, ils ont appris à se connaître et tout. Bon, il y a quand même une différence.
Côtier, Gare du Nord.
Une différence d'âge entre les deux, puisque Mallet était quand même un petit peu plus vieux, mais ils ont bien fricoté ensemble. Dans l'actualité, Tardy a adapté un manchette qui va sortir le mois prochain. Un manchette qui est vachement bien en plus, c'est la position du tireur couché. Qui à l'époque.
Ouh, grand classique, oui.
Ouais, un grand classique.
Il a été adapté au cinéma, il me semble.
Adapté au ciné avec Delon et qui était paru à l'époque dans Charlie Mensuel en épisode. C'est-à-dire, chapitre par chapitre, chaque mois, tu pouvais lire un des chapitres de La position du tireur couché, je crois, avant la sortie du bouquin, me semble-t-il. Mes souvenirs.
Charlie Mensuel, qui à l'époque était un magazine prépublication BD, et c'était là où avait commencé en plus.
Pas que BD. Il y avait également pas mal de textes. Il y avait également Sternberg qui écrivait, il y a Sternberg qui faisait plus dans le fantastico-érotique, on va dire, des fois pur fantastique, des fois. Bien érotique, on va dire, même hard, surtout, et d'autres. Petite interview de Tardy où il n'a pas sa langue dans sa poche, puis ça fait plaisir, où il déclare on lui dit, vous êtes aussi souvent invité au festival de BD que de polar, quelles en sont les différences? Alors il dit bon les fréquentations peut-être, on vient te faire signer, son Adèle Blanc-Sec ou son bouquin. De toute façon, je ne mets plus les pieds dans les festivals de BD, c'est la foire aux bestiaux.
Est-ce qu'il ferait pas un message là à Colomiers?
Bon, ok.
Parce que je crois qu'il était passé, il avait franchement pas apprécié.
Voilà, alors donc il dit pour Toulouse, hein, c'est surtout la présence de mon ami Vautrin qui m'a motivé. Ensuite, à la question pourquoi la BD et le polar vont-ils si bien ensemble, Généralement, le roman noir se déroule au moment où l'auteur l'écrit. C'est un document formidable sur une époque, ça je vous le dis et je vous le répète, il n'y a pas de problème. Hein. Si vous voulez rentrer dans le truc sociologique, il vaut mieux lire des polars.
On est bien d'accord, oui.
Il n'y a pas de problème, de toute façon. Hein. Quelle que soit la provenance, hein, c'est aussi vrai pour les Français que pour les Ricains, que pour les Anglais, que pour les autres, hein, de toute façon. Quoi. Alors, si on veut comprendre les années 70, il faut lire Manchette ou Deninx. Même les années 60, hein, parce que Meurtre pour mémoire, ça rappelle le massacre des Algériens de Charonne en 61, hein, avec Papon et tout ça, quoi, qui est d'ailleurs illustré dans le film de Ouchareb, Hors-la-Loi, qui est en ce moment à l'affiche. La BD actuelle est pauvre en scénarii, c'est Tardi qui le dit, hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais souvent voir du côté de la littérature. L'adaptation d'un polar me donne un confort sur l'histoire et les personnages, à moi de rendre les décors, les costumes et d'inventer les dialogues, c'est jouissif. Et ensuite, on lui demande, qu'avez-vous pensé de l'adaptation au cinéma d'Adèle Blanc-Sec?
Oula.
Oh là.
Je ne dirais qu'une chose, c'est un film de Luc Besson.
Il a
pris deux albums et les a concassés. Bon, il y a des choses auxquelles j'adhère, d'autres pas, voilà. Okay,
oui,
bon.
C'est clair qu'une Adèle Blanc-Sec en Indiana Jones, enfin bon.
Ok, donc Tardi, qui est donc présent aujourd'hui et demain, je le rappelle, c'est au Forum de la Renaissance à Toulouse. Allez, Saint-Saëns, vous prenez le métro jusqu'en bout de ligne Basso-Cambol, métro ligne A. Hein, donc tout de suite à 14h, là, c'est l'hommage à Jean Vautrin avec Jacques Tardi donc, et Claude Mesplède, qui est l'organisateur de ce festival. Et à 17h30, l'histoire du roman policier italien avec Loriano Machiavelli et Gianrico Carofiglio. Si, il y a même un site. Toulouse, alors HTTP, tout le bordel, Toulouse, Polar du Sud, overblog.com. Et je rappelle en plus que l'entrée est gratuite.
Magnifique. Pour ceux qui nous écoutent en direct, voilà. Donc, sincèrement, désolé pour les autres. Mélodie en sous-sol, interprétée et dirigée par Michel Magne. Ah, elle est classique. Je crois qu'on avait oublié quelque chose la semaine dernière.
Ah ben, on n'est pas les seuls, hein. De toute façon, je crois que tout le monde a oublié. Tout le monde a passé le truc à côté, mais c'est vrai que, à côté d'un autre monstre sacré comme Tony Curtis, une des dernières légendes de Hollywood, il faut bien le dire. Eh bien, Arthur Penn est plus ou moins passé à côté. Alors qu'il est mort la veille de la mort de Tony Curtis, la semaine dernière. Donc, Arthur Penn, qui en plus n'est pas un cinéaste qui a fait une grande, grande carrière, du moins au niveau du nombre de films. Il n'a fait qu'une dizaine de films durant l'ensemble de sa filmographie. C'est, bon, c'est vite fait, bien fait, de toute façon. Mais par contre,
effectivement 15 et ensuite il a terminé par deux films télé. Donc,
y a des petits trucs où il était co-réalisateur, enfin bon, c'est. De vrais films, bon, il y en a une dizaine à tout péter, quoi. Mais sur cette dizaine de films, il y a quand même du super lourd, ça, il n'y a pas de problème. Il est né en 1922, donc il n'était pas tout jeune et il a commencé sa carrière assez tard. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a fait ses armes dans la télévision naissante, au début des années 50, ce qui fait qu'il commence à tourner son premier film en 58, et un film qui rénove un petit peu le genre à Hollywood, qui rénove un petit peu la façon de tourner et l'image telle qu'on la voit apparaître. Pourquoi ? Parce qu'il applique des méthodes de télé au cinéma. Et bon, bah à l'époque, ok, hein, tout le monde était dans le, c'était tout dans le même moule, hein, de toute façon, cinéma hollywoodien, quel que soit le réalisateur, pratiquement, hein, là je fais un petit peu large, enfin, concassé, mais bon, c'est plus ou moins la réalité, si vous regardez un petit peu, quoi, les films des années 50, 40, même au début des années 60, bon, bah ok, hein, y a toujours plus ou moins les mêmes techniques qui sont utilisées, hein, les techniques de narration, les techniques de rendu, et là, bon, bah lui, il frappe très fort dès son premier film, Le Gaucher, The Left-Handed Man, avec Paul Newman, hein, qui raconte l'histoire de Billy the Kid, donc c'est la grosse claque. Depuis le départ, 4 ans plus tard, en 62, il nous fait Miracle en Alabama, un film social qui est quand même assez costaud pour l'époque, il faut le dire. Ensuite, un film...
Qu'apparemment, il avait déjà mis en scène à Broadway. Hein.
Oui, mais là, bon, bah, les gens qui vont voir les trucs à Broadway, quoi, c'est pas forcément les mêmes.
C'est pas les mêmes, on est bien d'accord. Hein,
que ceux qui vont aller dans les petites salles de cinéma du Midwest ou paumés. C'est pas la même chose, du tout. En 64, un film qui est resté un petit peu incompris, un petit peu décalé, c'est Mickey One en français aussi. Mais en 65, bah, là, c'est de nouveau la bonne claque dans la gueule avec The Chase. Titré en français La Poursuite Impitoyable avec Marlon Brando, avec Robert Redford et je me rappelle pas le troisième.
C'est lui qui l'a fait, d'accord.
Oui, c'est lui qui l'a fait. Ouais. C'est ça, c'est le genre de mec qui fait des super films. Tu les vois, tu les connais, et mais t'oublies le nom du mec. Bon, c'est pas important. Ouais, Arthur Penn, bon, basta, on s'en fout. Quoi,
et La Poursuite Impitoyable, c'est quand Marlon Brando fait un shérif. Un shérif qui est. Un verdict populaire qui veut lyncher un mec, non
c'est Voilà, ça c'est ça. Et le shérif qui est aux ordres des tout-puissants, des mecs qui ont le pognon et tout, quoi. Qui règne en maître sur une espèce de petit comté, quoi. Et bon, bah. La composition de Brando, elle est magnifique, elle est excellente, hein, parce que bon, bah, c'est vraiment. C'est pas le héros du film, mais c'est vraiment un mec assez dégueulasse, enfin, veule, tout ce que tu veux. Et il y a le jeune premier, il y a Robert Redford surtout, quoi. Hein, c'est un de ses premiers grands rôles. Là, il éclabousse de saboter l'écran, toutes les filles se parment devant lui. Ah, qu'est-ce qui se beau là et tout. Magnifique, quoi. Et 2 ans plus tard, eh bien, il nous fait un des chefs-d'œuvre, hein, du cinéma noir. Surtout parce que il a surtout accentué dans ce film le côté assez violent. Hein. Bon, on se rappelle la scène de fusillade finale, hein, qui préfigure un petit peu, quoi, d'ailleurs, hein, les polars hongkongais. Hein, parce que bon, bah, le nombre d'impacts de balles que reçoivent Bonnie and Clyde à la fin du film. Bon, bah, ok, hein, on a revu ça 20 ans, 30 ans après, quoi, dans les John Woo, dans les
Et même, ils ont dû couper parce que je crois que c'était beaucoup plus long.
Oui, c'était plus long. Il a été obligé de couper parce que, bon, c'était trop. C'était vraiment trop pour les mecs d'Hollywood. Et puis, bon, bah, ok. Et en plus, c'était vraiment la glorification d'un couple de brigands, hein, c'est-à-dire qui, bon, quand même semé la terreur dans l'histoire vraie, puisque c'est tiré d'une histoire vraie. Là c'est quand même l'histoire un petit peu glorifiée, espèce de couple de malfrats, donc c'était un petit peu malsain quand même, mais le film a rencontré un super succès, et de ce fait, bon, bah ok, il a quand même été adoubé. Il retombe un petit peu dans le film, on va dire, d'auteur entre guillemets, 2 ans plus tard, en 1969, avec Alice's Restaurant, qui est une chronique un petit peu désenchantée sur la vie des hippies de l'époque, hein, c'est-à-dire on est déjà après Ethel Ashbury, c'est-à-dire le Flower Power en 67 et tout, ça s'est cassé la gueule, il a commencé à y avoir quelques merdes et tout, on se rend compte que bon ben Peace and Love et tout, c'est pas vraiment ça et tout, quoi, si c'est pour se faire taper sur la gueule, pour que les nanas se fassent violer parce qu'elles se défendent pas, ça vaut pas quand même le coup non plus, et donc c'est une espèce de chronique un petit peu douce amère sur cette espèce de monde où la jeunesse a laissé tomber les valeurs ancestrales parce que bon, bah, ces valeurs étaient biaisées, étaient fausses, mais ne se retrouvent quand même pas dans leurs valeurs, les valeurs qu'ils essayent d'appliquer. Hein, c'est un film qui reste intéressant et tout, mais qui bon, est quand même un petit peu décalé. L'année plus tard, on renoue avec ce qui a fait la grandeur du cinéma américain, le western. Mais là, bah, c'est pareil, on se place du côté des Indiens avec Little Big Man et surtout avec un Dustin Hoffman.
Ah, c'est lui aussi ?
Oui. Avec un Dustin Hoffman qui est magnifique, avec une Faye Dunaway qui est impeccable, débordante de sensualité. Bref, un des très très grands films d'Arthur Penn. En 73, il a fait un film co-réalisé avec je ne sais plus qui, mais qui reste un petit peu anodin, on va dire. En 75, il nous fait La Fugue, Night Move, l'histoire d'un mec qui veut pas aller faire le Vietnam et puis donc qui est obligé de se barrer comme ça. Donc là également, le film qui est un petit peu une critique sur la politique américaine, sur l'envoi de jeunes mecs au Vietnam qui savent pas trop ce qu'ils vont foutre là-bas, qui sont décérébrés, donc ils savent pas pourquoi ils vont se battre, ou ils ont des fausses idées par rapport à ce qui va se passer là-bas, hein, casser du Viet Cong, oui, mais pourquoi ? Enfin bon, c'est un petit peu le thème du film. Et en 76, il renoue avec le western, mais là également encore avec un western complètement décalé, et surtout avec l'utilisation d'un Marlon Brando complètement à contre-courant. Alors Marlon Brando, à l'époque, il sortait plus ou moins de...
Oui, il était pas très en forme, il devait remonter une pente.
Oui, il était pas très en forme, mais il sortait quand même d'un très grand film, Le Parrain, de Godfather, donc, il était pas top, et là, bah, il joue le rôle d'un tueur à gage complètement décalé, homosexuel, qui va être chargé par des grands propriétaires de retrouver une bande de voleurs de chevaux, dont le patron est Jack Nicholson. Alors c'est assez marrant, le film n'est pas un monument, on va dire, mais c'est quand même un western assez agréable à regarder parce qu'il y a cette espèce de confrontation d'abord à distance entre Nicholson et Marlon Brando et ensuite les yeux dans les yeux qui est assez intéressante quand même, à savoir le monstre sacré des années 50 au niveau acteur et l'acteur qui a le vent en poupe et tout, qui est vraiment la valeur montante dans les années 70, Jack Nicholson. Et là, tous les deux font un bon numéro, il n'y a pas de problème. C'est un film qui se laisse quand même assez bien regarder. Et il termine plus ou moins sa carrière en 82 avec Four Friends, qui est un film, somme toute, assez anecdotique. Alors, il faut signaler aussi qu'Arthur Penn n'a aucun lien de filiation avec Sean. Hein, c'est le réalisateur de télévision qui s'appelle Leo Penn, qui a d'ailleurs réalisé des Columbo, entre autres, qui est le papa de Sean Penn. Voilà, pour donc
c'est si vieux que ça, Columbo. Il y a le papa de Arthur Penn, carrément, qui en a fait.
Ah bah bien sûr, oui.
Eh bien.
Bah les premiers, le premier date de 68, quand même, quoi.
Mmh, d'accord, donc, d'accord.
Ouais, bon, alors je me suis fait surprendre par la fin, donc on va mettre une interruption musicale le temps que je retrouve. Tessa Phased. We'll be right back. Et en plus, il est 13h pile poil et du sport. Désolé de te dire, mais on est écouté en direct, ça fait plaisir. Bonjour, cher ami auditeur.
Oui, bonjour.
Eh bien, écoute, bienvenue dans le suppléant week-end. Et je crois que tu avais quelque chose à dire sur le jugement qu'avait exprimé du sport dans la bio donc, de Monsieur Penn.
Ouais, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Voilà, par rapport, c'était par rapport au film Missouri Breaks. Voilà, dont il était dit que c'était un film en gros plaisant. Enfin, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est vraiment un super film avec un Marlon Brando qui fait un personnage de tueur à gages complètement atypique, avec des penchants pervers, sadiques. Enfin, vraiment un truc qu'on voit très très rarement, en tout cas dans le monde du western. Et en plus, voilà quoi, il y a Jack Nicholson qui est un brigand, comment on va dire, sympathique. Voilà, tout ça est très bien joué. Enfin voilà, avec des super paysages, une manière de filmer qui est quand même assez grandiose. Enfin voilà.
Non, mais je suis pas en désaccord avec toi. Hein, c'est exactement ça que j'ai voulu dire. Ce que je voulais exprimer, c'est que c'est pas l'un des chefs-d'œuvre des années 70. C'est un très bon film d'Arthur Penn, ça, y a aucun problème. Hein. C'est un western qui va à contresens de ce qu'on avait, de ce qu'on connaissait de la période dorée du western. Et voilà quoi, c'est tout. Mais bon, je veux dire, le film est sauvé parce que justement, tu viens de le souligner, les paysages sont vraiment très très bien filmés. Hein. Ça se passe dans le Missouri et là, Arthur Penn a fait vraiment très très fort. Parce que Marlon Brando joue justement cette espèce de personnage. Alors, il est habillé complètement en blanc, il est sur un cheval blanc.
Tout à fait,
et tout.
Ouais.
Enfin bon, c'est magnifique. Et la scène de la baignoire aussi, qui est pas mal, qui est sympathique.
Quoi. Tout à fait.
Et Nicholson ne fait pas encore vraiment du Nicholson comme on a l'habitude de le voir maintenant.
Ouais,
c'est ça qui est intéressant. Il est encore un petit peu en retrait. Donc,
ouais, plus nature, quoi.
Voilà, plus nature. Donc, peut-être plus intéressant, quoi. Disons, plus à la portée de ce qu'on connaissait par exemple dans Easy Rider ou dans des trucs comme ça où il était pas encore vraiment, il se mettait pas encore vraiment très en avant comme il a pris l'habitude de le faire dans les années 80.
Tout à fait.
Tu veux dire qu'il jouait pas encore sur ses sourcils?
Voilà. entre autres.
Par exemple.
Voilà. Non, mais disons, bon, faut replacer le film dans le contexte. C'était quand même en 76 et il y avait pratiquement plus aucun western de toute façon. Mm-hmm. C'était un espèce de film ovni, on va dire, hein, parce que ça allait vraiment à contresens de ce qui se faisait à l'époque aux États-Unis. De toute façon, plus de western. Donc là, Penn qui nous sort un western. Bon, ok, d'accord, ok. Et en plus, en dynamique. Le genre, mais en y instillant quelques petits trucs complètement décalés, enfin pas mal de trucs décalés d'ailleurs, hein,
parce pas mal,
c'est vrai que Nicholson, le personnage de Nicholson est présenté comme une espèce de Robin des Bois, je vole aux riches pour pas redistribuer aux pauvres, mais presque. Mm-hmm. Hein, et
avec une bande de copains sympas.
Ouais, avec une bande de copains sympas et tout. c'est vrai que c'est le film dont je n'hésite jamais à parler d'ailleurs quand il repasse à la télé. De toute façon, parce que c'est un des films à voir, c'est un des westerns à voir, pour voir comment le genre a pu évoluer et comment certains cinéastes, dont Arthur Penn, ont pu prendre le pas et ont pu prendre le genre à rebours, en fait. Hein, ce qui est un petit peu aussi arrivé avec Clint Eastwood de temps à autre, hein, parce que Eastwood vient du western, donc il a quand même pu s'inspirer du genre au départ avec respect, mais ensuite également en essayant un petit peu de biaiser les codes du genre. Et ce film d'Arthur Penn, là, il n'y a pas de problème, parce que à la différence de Little Big Man, par exemple, Little Big Man reste quand même très classique dans sa facture. Il n'y a que le thème de Little Big Man qui est anti-western, on va dire, parce que ça prend vraiment le côté des Indiens, c'est-à-dire ça raconte l'histoire, mais à l'envers. Par rapport à l'histoire officielle qu'on voudrait nous faire avaler concernant les cowboys et les Indiens, Little Big Man, c'est complètement le reste, c'est l'inverse. Alors que Missouri Breaks, c'est vraiment plutôt un ovni. Je parlerais plutôt de film ovni qu'un western qui est complètement décalé par rapport à d'autres westerns plus classiques.
Tout à fait d'accord. Juste une petite anecdote, c'est la tenue vestimentaire de Marlon Brando dans le film, donc effectivement tout en blanc,
avec
etc.
Avec des franges et tout, enfin bon.
C'est vraiment, en fait, c'est marrant parce que c'est le prototype de l'habit de cow-boy, mais d'opérette, quoi.
Ben oui, mais je pense que ça remonte au western chantant des années 40.
Ouais.
En fait, et au personnage de comment il s'appelait, le Lone Ranger. En fait, je pense qu'il y a eu, c'est un petit clin d'œil hein, que Penn a dû vouloir faire, ou peut-être que c'est Marlon Brando qui l'a suggéré au niveau du costume. Mais je pense que il y a un petit clin d'œil à ce niveau-là, justement pour ajouter encore hein, au décalage de ce western par rapport à ce qui se faisait.
Ben, moi, en fait, ça me faisait penser aussi. Alors, le nom m'échappe. Est-ce que c'est Buffalo Bill? Tu sais, ce cow-boy c'était un chasseur, quoi, qui se produisait sur la fin
oui,
de sa vie,
oui.
Donc à la fin du 19e siècle, quoi, dans un grand cirque dont le nom m'échappe, mais qui est pas connu.
Buffalo Bill avait créé un cirque à son propre nom, et je crois qu'il avait deux chapiteaux qui tournaient.
Hein. Ouais.
Ouais, ouais, et puis bon, il a
de
été
mémoire,
filmé,
je cite
hein.
ça.
Voilà, mais sapé, habillé, comme Marlon Brando dans Missouri Breaks, quoi.
Ouais, ouais, enfin, il y avait plus ou moins ouais, une ressemblance, parce qu'avec les vestes à franges et tout ça, mais enfin bon, moi, ça me fait plus penser, justement, à... ces cow-boys, ces westerns que les gens pouvaient voir aux États-Unis dans les années 40, où plein de chanteurs, c'était plus propice à mythologiser en fait ce qui s'était passé, la conquête de l'Ouest, et également à soutenir la carrière de certains chanteurs.
Allez Marty, tu vas tout droit, vas tomber dans le Far West. Vous êtes sûr qu'à l'époque on était habillé comme ça?
Ouais, avec le pantalon rouge.
Les bottes avec le symbole nucléaire.
Bon.
Eh ben écoute, c'est un immense merci que tu nous aies appelé. Moi, j'espère sincèrement qu'une chaîne soit câblée, soit peut-être la 3 le soir dimanche, passe au moins 2 ou 3 films d'Arthur Penn, un peu y rendre hommage. Parce que c'est vrai que c'est un peu dommage, c'est vrai que là, il y a eu beaucoup de monde qui a disparu, mais c'est pas une filmographie à mettre de côté.
Tout à fait.
Bon, en tout cas, je te remercie de ton coup de fil. Hein.
Ben, merci à vous, bonne continuation.
Merci.
Merci. Bye.
Et avec quoi on va continuer justement, Duss ?
Eh bien, avec la télé, est-ce que ça, quoi, de toute façon, quoi. Avec,
Non, mais si tout le monde en profite pour remettre un coup d'eau le temps que je monte le son,
ah bah, écoute,
c'est qu'on va...
avec la série dont je vous avais parlé quand elle était sortie, à la télé française, mais vu uniquement par ceux qui sont, toi tu parles de 60 000, les abonnés de Orange, il s'agit de Breaking Bad. Breaking Bad, ça veut dire mal tourné en anglais en fait, hein, tout simplement, c'est une expression. Et donc, cette série était sortie d'abord sur Orange Cinémax, il y a un peu plus d'un an hein, déjà, hein, c'était sorti globalement, mais elle débarque enfin en clair. En clair, il faut signaler sur Arte à partir de ce soir, 22h25. Alors, Breaking Bad.
Avec VF, VO et sur le site d'Arte, un putain de dossier qui est un vrai bonheur.
Ouais.
Ils ont fait un mini-site complet là-dessus.
Alors, Breaking Bad, donc, c'est déjà 3 saisons en 33 épisodes. Hein, c'est des petites saisons de 10-11 épisodes. Et c'est en plus, je crois que c'est assez c'est historique, il me semble, parce que c'est 3 Emmy consécutifs du meilleur acteur dans une série dramatique pour le héros principal de Breaking Bad, interprété par Bryan Cranston, le papa de Malcolm.
Ah oui, d'accord.
Voilà, le papa de Malcolm, qui là est dans un rôle qui est complètement décalé, mais qui n'a plus rien à voir avec Malcolm. Là, vraiment plus rien à voir. Le pitch, il est très simple.
Je l'aurais pas reconnu, sérieusement, hein, avec
sa
moustache.
La moustache et tout, c'est clair. Surtout dans la scène d'intro, hein, en slibard et tout, bon bah avec le masque à gaz, ça a plus rien à voir. Donc le pitch est très simple, c'est Bryan Cranston qui bosse comme prof de chimie dans un lycée paumé dans le Nouveau-Mexique, enfin bon, dans un patelin comme ça. Sa femme est enceinte, son fils est handicapé et son toubib vient de lui apprendre qu'il est atteint d'un cancer du poumon en phase terminale. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? Et en plus, bon, comme il a beaucoup de traite et tout, en plus de son boulot, de prof de chimie. Il travaille également dans un garage où il nettoie les bagnoles des gens les plus friqués et tout, quoi. Il se fait pourrir la vie un petit peu partout. Il se fait traiter comme étant le moins que rien, c'est-à-dire fonctionnaire comme prof de chimie. C'est un grouillot qui fait du car wash, donc pour gagner un petit peu plus de pognon, qui se fait insulter par son patron, qui est vraiment un connard fini, en plus un mec nul, alors que lui quand même prof de chimie, il est quand même un petit peu un niveau culturel, on va dire un bagage un petit peu intellectuel quand même nettement supérieur, et donc bah, il décide pour que sa famille, une fois qu'il ne sera plus là, il décide de fabriquer du crystal meth, des amphétamines, donc une espèce d'amphétamine super puissante et de dealer, quoi, pour que sa famille, une fois qu'il sera plus là, ben, elle puisse avoir un petit peu de pognon, histoire de voir venir. Voilà quel est le pitch de Breaking Bad, donc, et ça dure pendant 3 saisons. Alors ça a été écrit par créé par Vince Gilligan, qui quand il a proposé la série au grand network, bon bah s'est fait jeter comme un malpropre, ça se comprenait. Ensuite, il a également proposé sa série aux chaînes câblées qui ont sorti de par le passé des séries un petit peu rentre-dedans, des séries un petit peu décalées, HBO, Showtime, FX, qui ont toutes refusé, qui ont dit « Ah non, 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 c'est trop, non, non, on peut pas, un truc comme ça, c'est pas possible. » Alors que bon, c'est les chaînes qui avaient sorti, qui ont sorti il y a pas longtemps Spartacus, qui ont sorti Oz, qui ont sorti Soprano, enfin bon, j'en passe, c'est des meilleurs, les Tudors, enfin bref, quoi, Rome, des gros trucs quand même. Et là, bon, bah ok, c'est pas passé. Hein. Et il faut dire que lorsque la série a été vendue à l'export, même Canal+ a refusé de la prendre, hein, de l'acheter. Hein. Donc c'est pour ça que Orange a pu se l'approprier d'ailleurs. Et ça a été accepté par une petite chaîne câblée aux États-Unis qui s'appelle AMC, hein, et qui a commencé à diffuser Breaking Bad.
Et les mêmes qui ont fait le remake du Prisonnier.
Voilà, et donc qui ont commencé à diffuser Breaking Bad. Et à pratiquement chaque épisode, eh ben, le nombre de téléspectateurs commençait à gonfler. Et d'une saison à l'autre et tout, quoi, c'est carrément... c'était multiplié par deux à chaque fois, quoi, le nombre de téléspectateurs qui regardaient la série. Et donc c'est pour ça que ça marche hyper bien. Brian Cranston, qui a été adoubé par ses pairs, donc je le rappelle, grâce à ses émis, de meilleur acteur d'une série dramatique, et à côté de lui également bon, des acteurs et actrices pas trop connus mais bon, qui tiennent quand même vachement la route. Anna Gunn, Aaron Paul, Dean Norris entre autres. Alors Vince Gilligan, on le connaît, tu as déjà vu son nom. De toute façon, c'est un producteur et un scénariste. Alors tout d'abord, producteur de X-Files. Et oui, il faisait partie de la bande de Chris Carter, Franz Spotnitz et tout ça. Et il y a également Vince Gilligan qui est producteur pendant 5 ans sur X-Files, ou coproducteur exécutif. C'est lui qui est le producteur de la série spin-off de X-Files, les Lone Gunmen, les trois geeks, dont la série n'a duré qu'une saison, 13 épisodes, une demi-saison en fait. Il est également producteur de Harsh Realm, qui a duré un petit peu moins longtemps, ça a été là. L'échec de Chris Carter d'ailleurs, hein, cette série, hein, qui s'appelait Le Royaume également. Mais il a également été scénariste donc sur X-Files, où il a quand même scénarisé 30 épisodes sur l'ensemble de la série. Il a également scénarisé 3 épisodes d'une série que t'aimes bien toi, Xavier, Robbery Homicide Division, avec Tom Sizemore. Tu te rappelles cette série là? Et il a été également le scénariste bien entendu de Lone Gunman sur les 13 épisodes. Et c'est lui également qui est scénariste du film Hancock.
Ah bon.
Vince Gilligan, donc c'est pas n'importe qui, ok, ça va, il le fait bien. Et donc il était temps quand même que cette série soit regardable par un plus grand nombre de toute façon. Attention, vu le sujet et vu le thème, bien évidemment ça peut pas être diffusé en prime time, donc c'est en deuxième partie de la soirée qu'on pourra assister aux premiers épisodes ce soir de Breaking Bad sur Arte. Les deux premiers épisodes, donc le premier Chute Libre, c'est le pilote, et le deuxième Le Choix, à partir de 22h25 ce soir sur Arte. Une autre série qui est complètement inédite et qui est diffusée comme d'habitude, non je vais rester poli,
oula,
par TF1 le dimanche après-midi.
Oh non.
Alors que c'est une série inédite et quand même relativement haut de gamme, on va dire, hein. C'est Human Target. Alors Human Target, pour ceux qui sont des fans absolus de comics depuis des années, ça leur dit quelque chose, forcément. parce que c'est une idée originale. C'était un comics au départ, sorti chez DC Comics, et quand même créé et scénarisé par Len Wein et Carmine Infantino. Donc pas des petits en plus, hein. Vraiment des grands pontes de chez DC. Et donc c'est Jonathan Steinberg qui a décidé d'adapter donc ce comics en série télé. Alors le pitch est assez simple. Human Target, en fait, c'est un détective privé interprété par Marc Vallée et qui loue ses services, donc mais qui fait surtout de la protection de personnes et des trucs comme ça, c'est-à-dire garde du corps, des trucs comme ça. Mais comme ça se passe à Los Angeles, c'est plutôt des gens de la haute, des gens du cinéma, des hautes personnalités, des trucs comme ça, et plus particulièrement des femmes. Et c'est là qu'il y a un petit truc qui commence à être intéressant, parce que Marc Vallée, on l'a déjà vu dans une autre série dont je me rappelle pas le titre, mais il y a également Chai McBride, lui, qui joue le rôle d'un flic, Jackie Earl Haley, oui, qui lui joue le rôle du tueur à gage, on va dire.
Oh, enfin, c'est pas surprenant.
Pas un tueur à gage, mais enfin bon, c'est le type qui est engagé pour faire les basses besognes, en fait, quoi, qui est là en off.
Avec la trophée d'emploi. Quoi.
Officieux. Et Indira Varma, mais qui, elle, n'intervient qu'à partir de la deuxième saison. Alors, ça vaut surtout pour les nanas qu'on voit dans la série, ne serait-ce que le temps d'un épisode. Bon, il y a également Armand Sainte qui intervient de temps à autre. Mais on peut y retrouver Emmanuel Vaugier. On peut y retrouver Amy Acker, qu'on a vu dans Dollhouse. Tricia Helfer, la blonde de Battlestar Galactica, le nouveau. Courtney Ford, qu'on a vu dans Dexter. Et Moon Bloodgood, qu'on a vu dans Terminator Renaissance.
Ça va, joli casting.
Pas mal, pas mal. Et j'ai mis que les plus connus. Tu vois, il y en a d'autres encore. Bon, ça peut être intéressant. Bon, on se demande pourquoi TF1 programme ça le dimanche en bouche-trou l'après-midi quand il n'y a pas Grand Prix. Si, c'est juste après le Grand Prix, demain. Bon, enfin bon, c'est un petit peu dommage quand même. Ça aurait peut-être mérité un petit peu mieux, pourquoi pas. C'est vrai que quand on préfère rediffuser les experts en veux-tu, en voilà, qu'ils viennent de Las Vegas, de Miami ou de New York, bon, ça peut se comprendre. Ok, donc c'est Human Target, c'est à partir de demain. C'est complètement inédit, donc premier épisode demain à 16h10 sur TF1. Documentaire à présent, et deux documentaires ont l'air assez intéressants pour la semaine à venir. Tout d'abord, demain, un documentaire qui va être diffusé en quatre parties et qui va raconter l'histoire de l'Afrique, Afrique au pluriel. C'est le titre de ce documentaire qui est réalisé pour les quatre parties, pour les quatre épisodes, par Alain Ferrari et qui est présenté par Fabrice d'Almeida. Fabrice, qu'on avait déjà vu au départ dans l'émission d'histoire de Stéphane Bern, qui passait également sur France 5, me semble-t-il, Secret d'histoire, voilà quoi, ce truc qui s'appelle Secret d'histoire de Stéphane Bern, ou Fabrice d'Almeida, qui est historien, donc c'est son vrai boulot, et t'es l'un des intervenants. On l'avait vu également parce qu'il avait présenté en quatre parties l'histoire du FBI, qui était très 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 bien documenté et tout, vraiment sympa. Et c'est lui qui va faire plus ou moins le Monsieur Loyal lors des débats qui vont suivre la diffusion de chaque documentaire, de chaque épisode de ce documentaire Afrique au pluriel, dont le premier épisode couvre la période 1885 jusqu'en 1944. Le deuxième épisode, donc dimanche prochain, ce sera 45 jusqu'à 64. Ensuite, on a 1965-1989. Et ensuite, 1989 jusqu'à nos jours, c'est-à-dire jusqu'en 2010. Pour le débat de demain soir, après donc le premier épisode qui a lieu à 20h35 sur France 5, il y a Jacques Toubon, ex-ministre de la Culture.
Et de la Francophonie.
Et de la Francophonie. On a Elikia Mboleko, on a Marguerite Abouet, Clément Oubreni et Alain Mabunko. Donc pour ce documentaire Afrique sur France 5 demain à 20h35.
Je suis bien content de ne pas avoir eu à donner les noms.
Ah bah. Arte qui.
Je trébuche à chaque fois sur Toubon. All good. Jacques Holgood.
Jacques Toubon.
Jacques Holgood. Je rappelle, hein, les quotas franco, c'est à cause de lui.
Entre autres. Et les électeurs fictifs dans le 13e aussi.
Non, ça, c'est les morts.
Ah bah oui, fictif donc. Alors, un autre documentaire qui est sorti au cinéma d'ailleurs, qui est sorti en salle, et c'est normal parce que c'est un documentaire qui a été réalisé par un grand réalisateur de cinéma, Barbet Schroeder, c'est L'avocat de la terreur.
Ah oui, sur Maître Vergès.
Sur Maître Vergès.
Attendu avec impatience celui-là.
Ouais, ouais, alors là, bon, c'est mercredi prochain à partir de 20h40. C'était sorti en salle, ça avait eu.
C'est ça que je comprends pas, c'est qu'ils l'ont pas, ils vont le passer finalement le mercredi, donc je sais pas.
Bah, c'est dans le cadre des mercredis de l'histoire.
Eh hein. oui, donc à mon avis, c'est peut-être un remontage par rapport à la version ciné.
Bon, moi, je crois pas, hein, vu la durée, me semble pas, hein, de toute façon, quoi. Donc, bon, ça a vérifié, mais bon, j'ai vu la durée vite fait, quoi. Je me suis dit, tiens, c'est carrément la totale, c'est bien. C'est sympa. Alors donc c'est mercredi prochain à 20h40, L'avocat de la terreur de Barbet Schroeder, qui était sorti en 2007. Et vite fait, une petite, tiens, on va commencer en avance aujourd'hui, cool, une petite sélection de films à la télé. Et là j'ai essayé de vous trouver des films qui nous viennent du tiers monde du cinéma. Et là, bah, je peux t'assurer que...
Tu veux parler de la France pour la qualité cinéma artistique?
Non, de ce que les entre guillemets grands pays du cinéma appellent le tiers monde, ou les grands pays tout court appellent le tiers monde. Et là, bah, il y a
de l'indie.
Il y a pas grand chaos, comme on dit, dans le coin.
Ah, mais tu vois, France, c'est une catastrophe, on dit. Hein.
Ah ben, bah, il y a pratiquement que dalle. Et puis il faut regarder Arte, en fait. Arte, mardi prochain, 20h40, La Zona, un film mexicain. C'est son premier film de Rodrigo Pla en 2007. Et qui raconte l'histoire de trois jeunes qui viennent d'un quartier défavorisé et tout, et qui vont profiter d'une panne d'électricité pour s'introduire dans une résidence ultra surveillée, de nouveaux riches, de mecs un petit peu plus à l'aise et tout, et pour essayer de zoner. Pas pour voler au départ, ou pour...
Pour profiter.
Mais juste pour profiter, pour voir un petit peu comment ça se passe chez les riches, tout simplement. Donc c'est le sujet de La Zona de Rodrigo Pla avec Daniel Jimeno Pla, Maribel Verdú, Daniel Tovar et Carlos Bardem. Encore lui, Carlos, qu'on ne sait toujours pas si c'est le frère de l'autre. Oh, remarque, ça doit être un nom assez courant quand même, hein, dans les zones hispaniques, on va dire. Et le lendemain, donc, ce film-là, c'est mardi prochain sur Arte à 20h40. Et mercredi, donc, sur Arte, bah, après L'Avocat de la Terreur, donc à 23h05. Donc tu vois, 2h30, L'Avocat de la Terreur, je pense que c'est la bonne durée, hein, il n'y a pas de problème. À 23h05, un film brésilien, Cinéma, Aspirine et Vautour, de Marcelo Gomes en 2005, qui raconte l'histoire d'un Allemand, Peter Kettnat, c'est l'interprète, donc, qui zone dans le Brésil et qui essaie de vendre de l'aspirine à la criée, comme ça, et qui va se lier d'amitié avec des autochtones et parler de tout et de rien, et, entre autres, de cinéma. Le pitch du film, donc, avec, outre Peter Kettnat, Joao Miguel et Fabiana Pirro, donc Cinéma, Aspirine et Vautour de Marcelo Gomes, sur Arte, c'est mercredi prochain à 23h05, pardon. Et on termine également avec, ouais, on peut dire que c'est le tiers monde du cinéma parce qu'il n'y a pas grand chose qui se passe.
Oula.
Sinon des importés, c'est sur XXL vendredi.
Ah non.
À minuit, viens baiser ma femme en Belgique. Et qui est d'ailleurs tiré d'une série, hein, qui s'est exportée en Belgique, puisqu'il y a toute une série de thématiques de films porno qui s'appelle « Viens baiser ma femme ». Et ce « Viens baiser ma femme » en Belgique...
C'est les mondos, mais
ouais, non,
avec un sujet encore plus simple.
Non, c'est la thématique un petit peu échangiste et tout. Vas-y, et tout, profites-en, allez, viens. Viens boire un petit coup à la maison et tout. Et donc,
j'irai
après...
baiser votre femme chez vous.
Voilà. Et après, « Viens baiser ma femme » en Belgique, il y a 1h30, « Viens baiser ma femme 1 », c'est-à-dire le premier de cette longue série.
Je te demande pas le résumé ni quoi que ce soit de ce film, j'ose à peine imaginer ce que c'est.
C'est difficile de raconter le scénario d'un film porno, tu sais.
Thomas, peux-tu faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission courte ?
Oui, il y était question de philosophe aux toilettes, une boutique de goodies, un majordome poursuivi par des yakuza, une chronique rurale mélancolique, la sociologie en polar, la nécro d'Arthur Penn sur le tard, un débat par téléphone sur Brando en chevalier à franges, une série refusée un peu partout, un avocat qui fait peur de l'aspirine, et Viens baiser ma femme en série.
Je cherche ma vanne, j'y arrive pas.
Nom de...
Nom d'une sauce blanche sur ma frite, une fois. Ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et ainsi que retrouver nos chroniques écrites. Et mince, bon, j'ai pas le truc sous la main. Jouer à des quiz stupides, laissez vos commentaires aussi, nous poser des questions, voire nous suggérer des sujets. N'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr. Et aller aussi sur le Facebook, entretenu amoureusement par Ultimatum, moi j'y vais jamais. vous écoutez FMR sur 89.1 MHz, nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fmr.net. Love Rolls, c'est des compilations ciné Bollywood.
La semaine prochaine.
Ah, oh, la semaine prochaine, il y aura du jazz à la Nouvelle-Orléans, un chat, détective,
oui, je vois.
Une orbite basse, et
peut-être,
qu'est-ce que je vais pouvoir vous mettre ?
Il y aura des avions aussi.
Et plein de choses, il y aura plein de choses, c'est du bonheur. Allez, c'est fini un peu de roucouler là, avec le Sahari là ?
C'est sportif.
On se met en place là, les sportifs.
Jina ka adhikar